l'application Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Il est au pouvoir depuis 36 ans et compte bien y rester 7 ans de plus. Le 7 octobre prochain, le président du Cameroun, Paul Biya, 85 ans, briguera un 7e mandat. Face à lui, 8 candidats, dont 5 ont dénoncé la semaine dernière le traitement de faveur réservé selon eux par les médias publics et la télévision notamment au chef de l'État sortant. Alors la campagne électorale qui a démarré samedi est-elle biaisée? Pourquoi l'opposition n'a-t-elle pas réussi à s'unir et à présenter un candidat commun? Quel impact aura sur le scrutin le conflit meurtrier qui oppose les séparatistes à l'armée dans les zones anglophones du pays? L'alternance au pouvoir reste-t-elle une utopie dans certains pays d'Afrique? Réagissez, votre avis nous intéresse, appelez-nous au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins, place à vos questions sur l'actualité, questions à la rédaction de RFI. On va commencer par une décision qui suscite pas mal de critiques. L'Agence mondiale antidopage tire un trait sur le scandale du dopage institutionnalisé en Russie. Jean-Paul, bonjour. Jean-Paul, est-ce que vous êtes là à Conakry? Jean-Paul? Non, on a perdu Jean-Paul. À mes côtés en studio, Christophe Jousset, chef adjoint du service des sports de RFI. Bonjour.
Bonjour Chantal.
Jean-Paul, Christophe avait une question à vous poser. Donc, est-ce qu'on a retrouvé Christophe? Non, on n'a pas retrouvé Christophe pour l'instant. Alors, c'est moi qui vais vous poser la question. Pourquoi l'Agence mondiale antidopage a-t-elle réexaminé le cas de la Russie et levé les sanctions contre la Russie?
Alors, en fait, ce scandale avait été éclaté en 2015. On avait constaté que des athlètes russes dopés avaient été couverts, protégés par la Fédération internationale d'athlétisme. Lamine Diack, qui avait été pendant longtemps le président de la Fédération internationale, faisait partie des mises en cause. Et au-delà de ce système mis en place dans ce sport qui est l'athlétisme, la Russie avait installé un système de dopage généralisé entre 2011 et 2015 pour ces sportifs, avec des complicités au sommet de l'État, un système qui avait été démonté par le rapport du Canadien Dick Pound et puis un peu plus tard par le rapport McLaren. À la fin de 2015, donc, l'Agence mondiale antidopage avait tiré les conséquences de ces enquêtes, de ces rapports, et suspendu la RUSADA, qui est l'agence russe antidopage. Depuis, le cas a été réexaminé régulièrement pour voir si la Russie faisait des progrès, si elle faisait ce qu'il fallait pour mettre en place la lutte antidopage de façon sérieuse et aussi transparente. Régulièrement, la réponse était non. C'était encore le cas au mois de mai dernier. Et puis, la question a été reposée jeudi dernier. Et là, le comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, le comité exécutif de l'AMA, a voté oui. 9 de ses 12 membres ont estimé que les conditions étaient réunies pour lever la suspension de l'agence russe antidopage. En fait, il y avait deux conditions majeures à respecter, deux conditions qui avaient été posées au début par l'AMA. Il fallait que la Russie reconnaisse publiquement l'existence de ce système de dopage institutionnalisé, avec par exemple des gens du ministère des Sports qui étaient impliqués dans l'escamotage, dans la dissimulation de cas de sportifs russes dopés. Et cette condition, en fait, n'a pas été remplie. L'AMA a fini par se satisfaire d'une formulation beaucoup moins claire, beaucoup moins directe, où les responsabilités au sommet de l'État ou celles des services secrets russes, le FSB, étaient éludées. La deuxième condition, préalable à la levée de la suspension, telle que le voulait l'AMA, eh bien, c'était que l'AMA puisse accéder librement au laboratoire antidopage de Moscou, le labo qui a été pendant des années au cœur de la triche. Et là encore, cette condition n'a pas été respectée. En fait, les Russes n'ont fait que promettre qu'ils donneraient l'accès d'ici au 30 juin prochain. Et donc, en gros, l'AMA a dit « Ok, mais si ça ne se passe pas comme ça, eh bien, on pourra de nouveau suspendre la Russie.
» On a retrouvé Jean-Paul à Conakry. Bonjour Jean-Paul.
Je suis à l'écoute, Chantal.
Donc vous avez entendu hein, Christophe Jousset vous expliquer les raisons qui avaient poussé l'Agence mondiale antidopage à lever les sanctions qui pesaient contre la Russie. Est-ce que vous avez une autre question pour Christophe ?
Bon, la question que je pourrais ajouter sur celle-là, c'est que quelles seront les conséquences sur cette décision par rapport aux athlètes russes ?
Christophe.
Alors les athlètes, oui, donc ceux qui font de l'athlétisme, c'est un cas un peu particulier en fait, parce que la Fédération internationale d'athlétisme a réagi dès jeudi soir, dès la levée de la suspension de l'agence russe antidopage. D'ailleurs, il faut signaler que les réactions, bon, même si c'est une décision majoritaire qui a été prise dans les instances de l'AMA, il y a quand même eu beaucoup de réactions très virulentes pour dénoncer. Alors évidemment, Travis Tigart, qui dit l'Américain qui dirige l'agence russe. L'agence antidopage américaine, Travis Tigart a dit qu'on avait en gros trahi les athlètes propres du monde entier, mais même au sein de l'agence mondiale antidopage, la Norvégienne qui est vice-présidente de l'agence mondiale, Linda Helleland, avait estimé que cette levée de sanctions jetait une ombre sur la crédibilité de tout le mouvement antidopage. Bon, c'est dans ce contexte-là que la Fédération internationale d'athlétisme va devoir se décider, et décider de début décembre, en principe, si elle maintient ou pas la suspension de la Russie. En tout cas, la Fédération internationale d'athlétisme a dit qu'elle avait ses propres règles, qu'elle ne se sentait pas liée par la décision qui a été prise par l'Agence mondiale antidopage de réintégrer la Russie. Donc, la Fédération internationale d'athlétisme et son président, le Britannique Sébastien Coe, vont se décider selon leurs propres critères au début du mois de décembre et décider si les athlètes russes pourront participer de nouveau aux prochaines compétitions internationales d'athlétisme. Là, ce qu'on a vu depuis 2015, depuis la suspension de la Russie, c'était une interdiction de principe à la Russie, aux athlètes russes, de participer. Mais au cas par cas, on a autorisé certains athlètes russes à concourir sous bannière neutre. C'était encore le cas le mois dernier au championnat d'Europe d'athlétisme à Berlin, où il y avait environ 70 athlètes qui ont participé aux épreuves.
Merci Christophe, merci Jean-Paul de nous avoir appelés à Conakry. J'en profite pour rappeler à tous nos auditeurs à Conakry l'opération spéciale organisée cette semaine par RFI dans la capitale guinéenne. Juan Gomez vous donne rendez-vous mercredi à partir de 13h au Centre culturel franco-guinéen pour l'enregistrement en public de deux émissions d'appel sur l'actualité. Alors venez nombreux après-demain au CCFG à Conakry. Juan Gomez vous attend. La victoire des internautes au Bénin, vent debout contre une nouvelle taxe sur les réseaux sociaux. Ils ont fait reculer le gouvernement. Nassif, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous habitez Ouagadougou et ce qui se passe au Bénin voisin vous intéresse. On va tenter de comprendre la volte-face du gouvernement béninois avec Julie Owono, directrice de l'ONG Internet sans frontières. Bonjour.
Bonjour.
Nassif, vous avez la parole. Julie vous écoute.
Voilà. Le gouvernement béninois a annoncé la fin de la taxe sur les réseaux sociaux face à la colère des internautes. Ma première question est la suivante. Pourquoi le gouvernement a-t-il fait une marche arrière?
Alors,
et la deuxième question, est de savoir.
D'abord la première, Nassif. Julie Owono, donc pourquoi cette marche arrière qui a un peu surpris du gouvernement béninois?
Oui, elle a vraiment surpris parce que c'est une première dans l'histoire récente, en tout cas quand on parle d'Internet en Afrique de l'Ouest. Donc il faut d'abord saluer la décision courageuse du gouvernement béninois d'avoir reconnu son erreur et d'avoir abrogé ce décret. Et surtout, ça démontre la solidité des institutions démocratiques béninoises, d'une part, c'est le premier aspect des raisons qui ont fait faire marche arrière au gouvernement. Ensuite, il faut saluer bien évidemment la citoyenneté numérique béninoise qui s'est exprimé dans toute sa beauté, je dirais presque, à travers un hashtag bien connu maintenant qui est « taxe pas mes mots » ou « taxe pas mes mégaoctets », où on voyait de nombreux internautes expliquer pourquoi ce n'était pas une bonne décision de la part du gouvernement de taxer les réseaux sociaux, où on voyait aussi des internautes se désabonner en masse des pages des gouvernements ou alors se prendre en photo au Bénin, dans les rues du Bénin, avec le hashtag écrit sur une feuille. Donc ça montre vraiment la véritable citoyenneté qui s'est exprimée s'exprimer à travers les réseaux sociaux. Et puis surtout, ça montre l'aspect positif du numérique, contrairement à ce que le gouvernement avançait en disant que WhatsApp ou Facebook ou Twitter n'avaient qu'un usage ludique auprès des populations. Eh bien non, là on a vu qu'il y avait d'abord et surtout un usage aussi citoyen. Ensuite, ce qui a certainement fait reculer le gouvernement, c'est évidemment l'aspect économique. Si vous regardez le marché des applications Android, donc le nombre d'applications Android téléchargées depuis le Bénin ces 4 ou 5 derniers jours, eh bien, on a vu une augmentation exponentielle du nombre de téléchargements des VPN, donc ces applications qui permettent de contourner la censure, qui vous permettent de surfer comme si vous n'étiez pas dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Eh bien, ces derniers jours, les 5 premières applications téléchargées depuis le Bénin étaient des VPN. Donc évidemment, ça aurait eu un coût économique encore plus important et ça aurait été vraiment impraticable pour le gouvernement et pour les opérateurs de télécommunications. Et enfin, bien sûr, on peut penser que l'aspect politique a joué, puisqu'il faut rappeler que le pays va connaître des élections législatives l'année prochaine et que, évidemment, dans ce contexte-là, ça aurait été au désavantage du gouvernement, en tout cas pour le parti politique de celui-ci, d'apparaître comme un gouvernement qui promeut la censure dans une démocratie.
Nassif, vous avez une autre question pour Julio Wono ?
Oui.
Allez-y.
Qu'est-ce qui avait poussé ce gouvernement à prendre une telle mesure ? Est-ce lié à l'éducation ou c'était un pas vers la censure ?
Julie ?
Alors, oui, je pense que c'est plutôt le deuxième aspect, hein, puisque on se rappelle que le ministre de l'économie béninois a été filmé au cours d'une cérémonie officielle en train d'expliquer que, en gros, l'attaque se justifiait par le fait que si vous voulez critiquer le gouvernement béninois, eh bien, il faudra payer plus pour le faire. Cela rappelle très étrangement la justification qui avait été donnée en Ouganda, un autre pays qui a adopté une taxe similaire au mois de juillet, où le président avait justifié cette taxe en disant ça empêchera les gens de faire du commérage contre le gouvernement. Donc on voit que d'abord, la volonté première, c'était de contrôler l'information qui circule sur les réseaux sociaux. Bien sûr, l'autre aspect qui n'est pas négligeable, même s'il n'a pas été mis suffisamment en avant, c'est l'aspect fiscal. C'est vrai que les réseaux sociaux qui sont taxés, ce sont ceux qui appartiennent à ce qu'on appelle les GAFA, donc les grandes multinationales du numérique que sont Google et Facebook notamment. Et il est vrai que ces entreprises, on reproche souvent à ces entreprises de ne pas payer d'impôts et donc de ne pas contribuer au développement des économies numériques, notamment dans les pays africains. Sauf que nous, Internet sans frontières, on pense qu'il y a d'autres manières de faire contribuer ces entreprises qu'en ne les taxant pas elles-mêmes directement, puisque là, ce ne serait pas elles qui auraient payé, mais ça aurait été les utilisateurs et ça aurait eu pour conséquence tout simplement de faire que plus personne n'utilise ces outils-là et ça aurait eu pour conséquence de tuer des entreprises qui, elles, dépendent de ces outils pour fonctionner. Donc, c'était une décision absolument contre-productive, illogique et fort heureusement a été abrogée par le gouvernement béninois.
Merci beaucoup Julie Owono d'avoir répondu à nos questions. Nassif, bonne journée à Ouagadougou. Direction à présent l'Afrique du Sud où l'on peut désormais fumer un joint chez soi en toute tranquillité. Noé Ochebaudin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Johannesburg et vous allez répondre aux questions d'Henri qui nous appelle de Pointe-Noire. Bonjour Henri.
Bonjour Chantal, comment vous allez ?
Je vais très bien, et vous ?
Ça va.
Alors je vous donne la parole, allez-y.
Voilà, l'Afrique du Sud a décidé de dépénaliser la consommation du cannabis. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui justifie cette surprenante décision ?
Donc, qu'est-ce qui justifie, Noé Ochebaudin, cette décision quelque peu surprenante de la justice sud-africaine ?
Il y a plusieurs raisons qui ont mené à la Cour constitutionnelle du pays à dépénaliser le cannabis. Je dis bien dépénaliser, pas légaliser, car la semaine dernière, encore beaucoup d'habitants de Johannesburg faisaient la confusion. La première raison, c'est d'abord le droit au respect de la vie privée. Ça a été répété beaucoup de fois, et notamment dans un jugement de la Haute Cour du Cap qui donnait un avis favorable à la dépénalisation. Et c'est le même argument qu'ont choisi les juges de la Cour constitutionnelle la semaine dernière. C'est donc le respect à la vie privée, interdire la consommation de cannabis à la maison est donc contraire à la Constitution, car dans son article, on connaît notamment le droit absolu de ne pas avoir à révéler ce qui se trouve dans son espace privé, sous-entendu chez soi, ou encore le droit de ne pas se faire saisir ses possessions par les autorités. Il y a aussi une autre raison, c'est la liberté de religion. Les rastafaristes africains se sont impliqués dans cette bataille juridique depuis plusieurs années. Pénaliser le cannabis est un frein à leur liberté religieuse, selon eux, car ils voient en effet le cannabis comme une plante sacrée et bénéfique. Joker déclarait justement que ce jugement est un terme définitif à la victimisation des Rastafari en Afrique. Le gouvernement, lui, était d'abord opposé à la dépénalisation, notamment le ministère de la Santé, pour qu'il cannabis un peu plus dangereux.
Noé, je vous interromps parce que la liaison devient vraiment extrêmement difficile. On va essayer de vous rappeler tout à l'heure. Alors on vous rappelle tout de suite, donc on va peut-être rester en ligne, hein. Vous nous disiez donc que pour les Rastafari, le cannabis faisait partie de leur culture traditionnelle, que c'était quelque chose de sacré. Est-ce qu'on a Noé en ligne de Johannesburg? On le rappelle. Non, on a perdu Noé. Merci en tout cas à Henri, hein, qui nous avait téléphoné de Pointe-Noire pour en savoir plus donc sur cette dépénalisation du cannabis en Afrique du Sud. Juste après le journal, dans moins de 15 minutes, vous aurez la parole pour débattre de la présidentielle du 7 octobre au Cameroun. Une élection qui va se dérouler alors qu'un conflit meurtrier continue dans les zones anglophones du pays. On va tout de suite lancer le débat avec notre correspondant au Cameroun, Polycarpe Essomba. Polycarpe Essomba qui doit être en ligne avec nous de Yaoundé d'une seconde à l'autre. Polycarpe qui va répondre aux questions Carmel nous a envoyées. Donc Polycarpe, bonjour. Ah, on a Armel au téléphone. Armel, bonjour.
Bonjour.
Alors, Armel, est-ce que je demande en régie, est-ce qu'on a Polycarpe? Non, Polycarpe ne décroche pas. Ah, alors on a un petit souci. Armel, quelle était votre question?
Ok, bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs. Oui, ma question est la suivante. Nous savons que le Cameroun organise les élections présidentielles le 7 octobre 2018. Et qu'il y a une crise dans la partie de l'ouest du Cameroun. Ma première question est la suivante. Comment le gouvernement camerounais compte-t-il organiser les élections à l'ouest du pays, quand nous savons que les affrontements se font nuit et jour entre les sinistres et l'armée camerounaise? Et la suivante est, comment le gouvernement camerounais compte-t-il réagir face aux protestations des indépendantistes? Et la dernière, la suivante, comment le gouvernement camerounais compte-t-il s'y prendre pour empêcher le déplacement de la population du côté de l'ouest du Cameroun?
Voilà, merci Armel. Polycarpe, vous êtes en ligne?
Oui, je suis là, oui.
Bonjour Polycarpe. Alors, est-ce qu'il est réellement possible que les élections ne se tiennent pas dans les régions anglophones du Cameroun, des régions où un conflit meurtrier continue?
Alors, les autorités ont annoncé à plusieurs reprises que les élections se tiendront dans tout le pays, y compris dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest anglophones. Elections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation matérielle du scrutin, s'y est également engagé et envisage des dispositions spéciales pour aménager des centres de vote dans des lieux sécurisés. Donc, il y a clairement une volonté à ne pas céder à la menace. Déjà, on a observé que samedi dernier, pour l'ouverture de la campagne électorale, le RDPC, le parti du candidat Paul Biya, a été tenir un meeting à Bamenda, certes dans une salle où la sécurité avait été renforcée, mais le pouvoir tenait à faire ce meeting-là pour envoyer un signal aux indépendantistes qui n'allaient pas leur céder la place sur le terrain et éventuellement appeler les autres candidats de l'opposition à tenir leur planning de meeting dans ces deux régions pour que les meetings soient encadrés par les forces de l'ordre et de sécurité.
Mais que peut faire le gouvernement pour réagir aux déclarations des indépendantistes qui ne veulent pas des élections?
Alors, les indépendantistes ont effectivement à plusieurs reprises diffusé des messages sur les réseaux sociaux annonçant qu'ils allaient par tous les moyens empêcher la tenue des élections dans le sud-ouest et le nord-ouest anglophone. Avant le début de la campagne, ils ont multiplié des offensives contre les forces de l'ordre et de sécurité, saboté certains ouvrages tels des ponts pour tenter d'isoler ces régions du reste du pays et entretenir une sorte de psychose dans les principales villes du sud-ouest et le nord-ouest. Le gouvernement a commencé par décréter le couvre-feu dans la région du Nord-Ouest. Le gouverneur de Bamenda a décrété une mesure de couvre-feu dans la région du Nord-Ouest.
Merci beaucoup Polycarpe. On vous retrouve juste après le journal de 10 minutes.